Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'ONG Greenpeace dénonce la mesure visant la levée du moratoire sur les concessions forestières proposées par la ministre de l'Environnement au cours du dernier conseil des ministres tenu la semaine dernière à Kinshasa. D'après la chef de la campagne Greenpeace Afrique pour la forêt du bassin du Congo, une telle mesure va ouvrir une grande voie à la déforestation et exaspérer la crise climatique et aussi mettre en péril la vie des communautés locales qui vivent des ressources issues de ces forêts. Comment analyser cette situation et que faut-il pour une gestion durable des ressources naturelles, notamment la forêt en RDC? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission Madame Irène Wabiwa, elle est chef de la campagne Greenpeace Afrique pour la forêt du bassin du Congo. Bonsoir Madame Irène Wabiwa.
Bonsoir les amis.
Sylvie Dbeau, conseillère en charge des forêts et des tourbières à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Bonsoir Madame Sylvie Dbeau. Voilà, elle n'est pas encore là. Et Alain Parfait Ngoulungou, expert en gouvernance forestière et climatique. Bonsoir Monsieur Alain Parfait Ngoulungou.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, en RDC, l'ONG Greenpeace dénonce la mesure visant la levée du moratoire sur les concessions forestières proposées par la ministre de l'Environnement au cours du dernier conseil des ministres tenu la semaine dernière. D'après Irène Wabiwa Betoko, chef de la campagne Greenpeace Afrique pour la forêt du bassin du Congo, une telle mesure serait une catastrophe pour la population qui vit des ressources issues de la forêt et cela va également affecter le climat à l'échelle mondiale. La chef de la campagne Greenpeace Afrique pour la forêt du bassin du Congo plaide pour la promotion de la bonne gouvernance dans les secteurs avant de penser à la levée du moratoire sur les concessions forestières en vigueur en RDC depuis 2002. Elle est au micro de Tati Mapoukou.
Vu les chaos dans lesquels est plongé le secteur forestier de notre pays depuis des décennies, une telle mesure serait la catastrophe. Non seulement pour la population, mais aussi pour le climat mondial. On sait que une telle levée de moratoire va ouvrir une grande voie à la déforestation et exaspérer la crise climatique et mettre en péril la vie des communautés locales et peuples autochtones qui vivent et dépendent de ces forêts pour leur survie. Et nous considérons que tant que les forêts de la RDC sont minées par les illégalités, la corruption, l'impunité, bref, la mauvaise gouvernance, il est inconcevable de penser à la levée de moratoire. Ce moratoire a été institué pour des objectifs précis, dont l'assainissement de ces secteurs. Et à ce jour, ces objectifs ne sont pas encore atteints.
Madame Irène Wabiwa, je rappelle que vous êtes chef de la campagne Greenpeace Afrique pour la forêt du bassin du Congo. Vous dénoncez la levée du moratoire sur les concessions forestières comme nous venons de vous suivre dans cet élément, parce que vous estimez que cela va entraîner la déforestation, menacer le climat mondial et même préjudicier les intérêts des populations environnantes. Madame Wabiwa, vous pensez que la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, en proposant la levée de ce moratoire, n'a pas pensé à toutes ces conséquences?
Merci bien pour la question. Nous avons du respect aux institutions publiques et nous avons aussi du respect envers la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Esba Zaïba. Et nous estimons qu'elle a pu analyser avec son équipe technique comme juridique tous les tenants et les aboutissants, mais de tous les contours liés à la proposition de ces plans de levée de moratoire. Mais en ce qui nous concerne, nous Greenpeace, nous sommes dans ce secteur forestier, nous dénonçons toutes les illégalités, les irrégularités qui gangrènent ce secteur depuis des décennies. Et aujourd'hui, nous avons été encore une fois étonnés de voir que le gouvernement congolais pouvait penser à une telle mesure. Ça veut dire donner plus de forêts pour être exploitées. Et vu le chaos dans lequel règne ce secteur depuis des décennies, nous estimons qu'il n'est pas encore temps de pouvoir penser à donner plus de forêts, à vendre plus de forêts. Cela ne va profiter à aucune personne, à aucun Congolais dans ce pays. Depuis lors, depuis que nous connaissons le secteur forestier, cela, sa contribution au PIB national, c'est moins d'1%. Donc nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, si on lève le moratoire, la situation va s'améliorer. Au contraire, la situation va s'empirer. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas encore en mesure de garantir ou de mettre en place des mesures qui puissent faire à ce que les secteurs forestiers soient réellement et durablement gérés.
Voilà, donc vous êtes étonné de voir le gouvernement envisager une telle possibilité. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir poussé la vice-première ministre et ministre de l'Environnement à entreprendre une telle démarche lorsque des notoriétés publiques à travers le monde, nous sommes dans une dynamique de préservation de la forêt?
C'est la question que nous nous posons et nous aimerions avoir de réponses claires de la part du ministère en charge de l'Environnement. Au moment où le monde est en train de penser à ce qu'on appelle le Take Biotech Target, ça veut dire un plan, d'ici 2030, les pays au sein des Nations Unies sont en train de mettre en place des stratégies qui pourraient amener tous les pays à conserver 30% de la planète, parce que notre planète est en feu, le changement climatique est réel. Et si la RDC, qui joue un grand rôle, qui constitue le deuxième poumon mondial en termes de forêt, commence à mettre en plan qui vont à l'encontre de cette volonté mondiale, mais c'est un risque non seulement pour les Congolais, mais aussi pour la planète entière. Donc nous espérons et nous espérons vraiment que nous allons obtenir de réponses au sein de cette émission.
Oui, ce moratoire qui avait été décidé en 2002 prévoyait quoi et devait durer combien de temps, Madame Irène Wabiwa?
Ce moratoire a été pris en 2000, a été institué en 2002 et renforcé en 2005 à travers un décret présidentiel, et ce décret a prévu trois grandes préconditions, entre autres la publication des résultats de ce qu'on appelle le processus de conversion qui a eu lieu dans notre pays, mais aussi la programmation géographique. Et nous savons très bien qu'il y a deux de ces trois conditions qui ont été réalisées selon le gouvernement, mais il y a une troisième qui concerne la programmation géographique des espaces forestiers, comment ces espaces seront utilisés, qui manque. Mais en ce qui nous concerne au sein de Greenpeace, nous ne pensons pas qu'il est question de pouvoir faire des cloches, disons, voilà, la première précondition a été réunie, la deuxième a été remplie, la troisième manque, ou la troisième est en cours d'être remplie. Il s'agit de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous ne sommes pas au stade où il faut regarder ce qui se passe sur un bout de papier, mais ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé depuis que le moratoire est en place? Nous avons parlé de plusieurs illégalités. Nous avons parlé de plusieurs cas de corruption. Nous avons parlé de la violation de ce moratoire depuis qu'il est en place. Et à plusieurs reprises, Greenpeace et d'autres ONG nationales et internationales ont demandé à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures qui sécurisent ce moratoire. Parce qu'aujourd'hui, ce moratoire est une garantie, un garde-fou pour l'expansion de la déforestation dans notre pays. Mais rien n'a été fait. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire, voilà, les trois conditions ont été remplies, mais il s'agit de regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Est-ce que nos forêts sont bien gérées? Est-ce que les textes légaux qui régissent les forêts sont bien respectés? Est-ce qu'il y a un contrôle efficient sur le terrain? Et la réponse est non jusque-là. Donc, il n'est pas question de pouvoir étendre plusieurs autres hectares de forêt, alors que la situation de 11 millions d'hectares actuellement voués à l'exploitation industrielle ne peuvent même pas être sécurisés.
En évoquant les conséquences possibles de la levée de ce moratoire, vous avez parlé, n'est-ce pas, de populations environnantes, des communautés qui vivent grâce à ces forêts. Et vous ne pensez pas que la levée de ces moratoires peut à la fois menacer, n'est-ce pas, les intérêts des communautés parce que la déforestation va détruire leur vivier que la forêt, mais cela peut aussi assurer des emplois à cette même population. N'est-ce pas que ce qu'on a perdu par la déforestation peut être compensé, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre à travers les emplois que cela peut générer?
Monsieur le journaliste, nous ne devons pas nous voiler la face. Nous sommes Congolais, nous vivons au Congo, nous connaissons la situation réelle de notre pays. Comme je le disais, actuellement, il y a près de 11 millions d'hectares de forêts qui sont légalement, entre guillemets, sous le régime de l'exploitation industrielle du bois. 11 millions d'hectares. Et plusieurs communautés vivent aux alentours de ces concessions qui constituent ces 11 millions d'hectares. Mais allez-y dans ces différentes zones forestières. Vous allez voir la misère des communautés et peuples autochtones qui vivent autour de ces concessions. Quel genre d'emploi jusque-là l'industrie forestière a créé dans notre pays? J'ai été plusieurs fois sur le terrain à Oshue, dans la province de l'Équateur, dans la province de la Chopo, de la Chuapa. Mais la population, elle est misérable. C'est des emplois. Je peux même pas appeler ça du travail, mais la population est sous-exploitée. Vous allez voir que la plupart, ils n'ont même pas de contrat. Et ceux qui ont un certain nombre de jours d'engagement comme journalier, ils ont environ moins d'un dollar par jour. Comment est-ce que vous voulez que ces chefs de famille qui vivent de moins d'un dollar par jour puissent dire que l'industrie forestière a créé de l'emploi pour eux? Nous sommes un pays pauvre et je ne pense pas qu'en levant le moratoire, notre pauvreté sera résolue. Nous sommes très loin de là.
Merci, Madame Irène Wabiwa. Nous allons vous redonner la parole dans le deuxième tour, n'est-ce pas, des tables. Madame Sylvie Insbeau, vous êtes conseillère en charge des forêts et des tourbières à la vice-primature de l'environnement et développement durable. La vice-première ministre, ministre de l'environnement, a proposé au Conseil des ministres la levée du moratoire sur les concessions forestières. Et qu'est-ce qui peut avoir motivé cette initiative, Madame Sylvie Insbeau?
D'abord, pour commencer, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de participer à ce débat, cet échange, qui j'espère pourra éclairer la lanterne de tout le monde. J'ai suivi avec beaucoup de retard, malheureusement, nous avons eu quelques problèmes techniques, les propos de Madame Irène. Nous comprenons un peu sa peur, parce que généralement l'inconnu fait peur. Nous sommes une nouvelle dynamique au niveau de la crise primature. Comme vous le saviez, autrefois, le ministère de l'Environnement était un ministère simple de l'Environnement. Aujourd'hui, on l'a élevé au niveau de vice primature et ce, pour pouvoir contribuer valablement à l'effort de la RDC dans les changements climatiques et dans une politique forestière qui puisse être bénéfique pour toutes les parties. Donc, c'est dans ce cadre-là que la mesure de la levée du moratoire a été présentée à la 11e session du Conseil des ministres et validée. Mais ce qu'il faut retenir de la levée de ce moratoire, ça fait 20 ans que ce moratoire a été institué. Contrairement à ce que Madame Irène nous a dit, la première des tâches de ce moratoire était la conversion des anciens titres en concessions forestière, ce qui a été fait. La deuxième était l'attribution des titres de manière transparente aux sociétés qui étaient demandeuses, ce qui a été fait. La troisième était la mise en place géographique pour pouvoir pallier au découpage du nouveau titre. Dans cet aspect-là aussi a été mise en place et accompagnée du conseil consultatif qui est en fait un conseil d'experts. Pour la programmation géographique des futures allocations, il y a eu une commission ad hoc composée d'experts de toutes les parties prenantes forestières qui ont mis en place un comité de pilotage et celui-ci a fait une projection sur 3 ans pour pouvoir convertir, donc pour qu'il y ait des zones disponibles pour adjudication. Et ils ont fait une descente, un travail de terrain pour y arriver. Au-delà de tout ça, le moratoire ayant atteint ses objectifs, aujourd'hui, il est complètement obsolète et on doit passer maintenant à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est de mettre en place une politique de gestion durable des forêts qui puisse permettre, primo, le bien-être des populations locales qui vivent de la forêt. Comme vous le savez, nous avons plus à apprendre d'eux que d'eux à apprendre de nous.
Vous avez raison, Madame Sylvie Insbeau, mais vous avez suivi Madame Irène Wabiwa lorsque je lui ai posé la question de savoir si ce qu'on peut perdre par la déforestation peut être compensé d'une manière ou d'une autre par les emplois, n'est-ce pas, que la levée des moratoires pourrait générer. Elle a relevé le fait qu'elle a sillonné tous les pays, elle voit la misère, la précarité dans laquelle vivent ces populations qui dépendent des forêts. Entre-temps, vous parlez des bien-être de ces populations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est simple. Nous avons, comme elle, j'ai eu l'occasion aussi de beaucoup sillonner, de faire un peu le tour de tout le pays, et de constater que malheureusement ces populations vivent dans un état de précarité terrible. Et pour permettre qu'ils puissent tirer profit de l'exploitation qui est en cours, nous avons mis en place plusieurs mesures, notamment la révisitation des contrats forestiers qui sera faite, tous les contrats forestiers qui ont été octroyés jusqu'à ce jour, et qui va permettre maintenant de pouvoir déceler un peu tous les différents problèmes qui gravitent autour de ça. Et le plus important est la mesure de la suspension de toute exploitation de bois d'œuvre en RDC. Notre objectif est simple, pouvoir mettre en place des structures. Quand vous êtes exploitant forestier, vous devez faire votre produit fini localement, ce qui implique l'ouverture du marché de l'emploi aux locaux, le transfert de technologies pour certains, puisque nous avons certaines structures qui veulent mettre en place des menuiseries, etc., et ajouter une plus-value au bois qui est exporté et permettre au pays d'en tirer des dividendes.
Oui, madame, c'est quoi l'alternative, hein? Vous autorisez l'exploitation de la forêt avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence. Entre-temps, on propose quoi?
On ne peut pas arriver à la levée du moratoire sans pour autant avoir mis des garde-fous en avant.
Quels sont ces garde-fous? Vous parlez de la révision des contrats, la révisitation des contrats.
L'arrêt des exportations, c'est un des garde-fous parce que nous allons suspendre de manière conservatoire l'exportation, mais pour pouvoir mettre le doigt sur les véritables problèmes que connaît le secteur forêt. Nous avons les états généraux qui vont arriver. Nous allons mettre sur pied une nouvelle politique forestière qui va permettre d'aller dans d'autres secteurs, notamment la conservation et la vente du crédit carbone. Nous allons mettre en place une autorité de régulation des marchés carbone. Nous allons instaurer la taxe carbone. Donc nous sommes en train de mettre les mesures d'accompagnement pour pouvoir arriver à quelque chose qui peut permettre au pays de tirer des dividendes, qui peut permettre au pays qui est au centre de toutes les discussions au niveau international en termes de crédit carbone, en termes de conservation, en termes de forêt qui est poumon mondial, de pouvoir tirer profit de tout ça. Et aussi, au passage, permettre aux populations locales de tirer profit de leur forêt.
Le Gabon est le premier pays à avoir bénéficié des fonds verts pour avoir été considéré, n'est-ce pas, comme un pays qui a contribué à la protection de sa forêt. Est-ce que cela ne peut pas nous interpeller, nous, Congo, en tant que pays détenant la grande partie de cette forêt, quant à ce qui concerne notre devoir de lutter aussi pour la protection de la dite forêt?
Je suis heureuse de voir que vous me rejoignez puisque le Gabon va dans le même sens que ce que nous envisageons de faire. Nous envisageons de pouvoir mettre sur pied une gestion durable. Nous envisageons de transformer l'exploitation, que ce ne soit plus l'exploitation gagnante pour seulement l'exploitant, mais que cette exploitation puisse être sous des garde-fous bien précis, dans un carré bien précis, pour permettre à ce que cette exploitation ne puisse ni détruire la forêt, ni rendre les populations encore dans une situation encore plus difficile que celle qu'elle a actuellement, permettre à ceux-là de tirer profit de ça, permettre que nos enfants puissent étudier au niveau des régions forestières, etc. Et aujourd'hui, si le Gabon a pu le faire, c'est parce qu'il a tapé de la table, il a pris des décisions coercitives, des décisions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Il y a eu un tollé au niveau international. Le président français a fait une descente au Gabon pour demander au président Bongo de faire marche arrière. Il a tenu mordicus, il est resté droit dans ses bottes. Et aujourd'hui, le Gabon tire profit de cette politique dure vis-à-vis de l'exploitation. C'est le même objectif que nous envisageons de faire.
Merci.
Nous sommes sur cette voie-là. Nous restons sereins dans la mesure où nous avons un objectif à atteindre, sereins dans la mesure où nous allons demander à nos partenaires qui sont les ONG, qui sont Greenpeace au travers Madame Irène, etc., de venir nous juger à partir du résultat que nous allons leur produire.
Merci Madame, nous vous gardons encore dans cette émission. Alain Parfait Ngulungu, vous êtes expert en gouvernance forestière et climatique. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, propose la levée du moratoire. Greenpeace dénonce cette démarche. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'aller dans le fond des choses, saluer d'abord les deux dames, madame Sylvie et Irène, mais aussi à tous les aimables auditeurs de la Radio Capi. De prime abord, je voudrais d'abord dire que le plan annoncé par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable de la RDC, Madame Eve Bazaïba, visant à lever l'interdiction d'allocation de nouvelles concessions d'exploitation forestière, est une mesure qui, dans un passé récent, a été déjà prise par ses prédécesseurs. Et donc, ce moratoire qui a été lancé depuis 2010, là, était justement face au chaos généralisé observé dans les secteurs forestiers. Alors, la Banque mondiale, l'un des partenaires qui a accompagné le gouvernement de l'époque pour mettre en place ce qu'on appelle l'agenda prioritaire dans les secteurs forestiers, estimait que la forêt congolaise pouvait justement aider le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bien entendu, à l'époque, on était à la sortie de la guerre, des guerres que nous avons eues en RDC, pouvait justement servir de levier économique pour booster non pas seulement l'économie, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations locales, essentiellement des peuples autochtones. Mais malheureusement, l'on a constaté 20 ans après une sorte d'inaction politique de la part du gouvernement qui n'a pas réussi à mettre en œuvre justement cet agenda prioritaire. Et le comble est que cette énième adoption du plan par les conseils intervient à un moment où la RDC venait de violer sa propre loi, notamment en attribuant 1,4 million d'hectares de concessions dites de conservation à certains intérêts miniers que l'on connaît. Je ne voudrais pas revenir sur cette polémique-là qui a eu dans la presse. Et donc, on a l'impression que cette énième attribution apparaît simplement comme une mascarade politicienne pour justement déguiser cette levée d'interdiction en une mesure trompe-l'œil de bonne gouvernance. Et ce plan, nous semble-t-il, est vraiment machiavélique parce que ça n'apportera aucun bonheur aux populations locales dont Madame Sylvia fait allusion, parce que nous savons que les cadres n'est pas propice pour procéder à cette levée des moratoires au regard de certains engagements pris déjà par la RDC, notamment qui est en train de réviser ce qu'on appelle la contribution déterminée des pays au niveau national. Et cela résulte de l'accord de Paris de 2015, mais aussi certains engagements pris avec certains grands bailleurs qui financent à travers ce qu'on appelle les CAFI, qui financent le Fonds National REC+, qui est un fonds qui, justement, finance beaucoup d'activités pour l'atténuation climatique à RDC. Donc, pour la énième fois, la RDC est en train de marcher sous ses propres lois et ses engagements pris sur le plan international, voire même aussi envers des partenaires bilatéraux. Et c'est malheureux parce qu'on revient sur les mêmes erreurs, les mêmes égarements, alors que nous sommes un État souverain, un État responsable qui doit absolument faire montre d'une sorte de notoriété sur le plan, que ce soit national ou international.
Voilà, Alain Parfait Ngulungu, le gouvernement congolais, à travers Mme Sylvie Dzbo, pense que le moratoire a atteint ses objectifs et que la levée, n'est-ce pas, de ces moratoires peut contribuer à l'épanouissement du pays. Ça, c'est le débat de tous les jours, hein, à travers le monde, pour tous les pays qui détiennent des forêts et auxquels on demande de pouvoir préserver ces forêts. Et comment, à votre avis, peut-on concilier la nécessité de préserver la forêt et les impératifs économiques?
La solution est simple. La vision à long terme pour la gestion des forêts congolaises est encore à gestation. Il y a plusieurs options. Et sûrement, du point de vue du gouvernement, cette vision doit incorporer non pas seulement de mettre au service de la communauté internationale nos forêts, mais aussi de fournir des services environnementaux, notamment aussi en approvisionnant les marchés locaux internationaux en divers produits forestiers de façon durable. Mais ce qui fâche auprès de certaines parties prenantes est que ce processus doit se faire en respectant les objectifs assignés au décret de 2005 procédant justement au moratoire sur l'allocation des titres forestiers à RDC. Et donc, tant qu'on ne respecte pas nous-mêmes les objectifs assignés à cela, je crois qu'il sera très difficile, il me semble que, et ça je dois l'avouer, que le gouvernement a réussi à atteindre sur les trois objectifs clés des objectifs. Et jusque-là, nous sommes en train de patauger pour chercher à faire la programmation géographique. Des engagements sont pris dans le cadre du CAFI pour que, à travers une lettre d'intention, pour que la RDC mette en œuvre, respecte les jalons, notamment sur les réformes que l'on doit opérer sur le plan forestier, sur le plan de l'aménagement du territoire et sur le plan de beaucoup d'autres secteurs. Mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé à la fin, justement, de ces processus pour pouvoir penser à une telle levée. Parce que si on suit la logique du gouvernement actuellement, le secteur forestier connaît pratiquement un chaos. Il y a un problème d'impunité, de la corruption. Il y a une expansion de l'exploitation forestière artisanale qui va même au-delà de l'exploitation industrielle. Et donc, toutes ces activités, si elles ne sont pas encadrées, si elles ne sont pas contrôlées, chose d'ailleurs que le gouvernement peine à faire, je crois que nous allons constater, malheureusement, cette lieu de la déforestation, alors que nous nous sommes engagés de pouvoir contribuer à l'échelle internationale, non pas seulement à la régulation climatique à travers la préservation de nos forêts, mais aussi de faire contribuer justement ces forêts pour notre croissance économique, mais qu'il soit une croissance économique durable.
Oui, Madame Irène Wabiwa, nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs hein, qui cherchent aussi, n'est-ce pas, à contribuer à ces débats. Et vous allez donc réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi.
C'est Patien Kinga, je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi. La République démocratique du Congo est un pays dont son sol et son sous-sol constituent les richesses. Si cette mesure est profitable, c'est mieux de l'appliquer sous une condition. Par exemple, si vous abattez un arbre, vous le remplacez par un autre qui est jeune. Nous voyons comment le trafic des bois rouges apporte de l'argent aux particuliers. Si nous comptons sur le cuivre, cobalt, nickel et autres à notre budget, pourquoi pas aussi sur nos bois de valeur. Chaque arbre a une durée de vie bien déterminée. Si cette durée est accomplie, il tombe, quelle que soit la volonté de pouvoir le garder longtemps pour profiter son oxygène. Ce qui importe, c'est comment prévenir les effets de la déforestation, car la déforestation est déjà là, elle s'observe et se fait sentir.
Madame Irène Wabiwa.
Merci, monsieur le journaliste. Monsieur, j'ai oublié le nom, je pense que c'est
monsieur Patien. Monsieur Patien, oui, Patien de Lubumbashi.
De Lubumbashi. Merci pour cette contribution. Je suis d'accord avec vous. La déforestation est déjà là. Les impacts sont réels. Les communautés en souffrent. Et vous avez parlé du fait que si on abat un arbre, il faut en planter un autre. Moi, je reviens dessus. Je dis, si on abat un arbre, il faut en planter trois. Mais une chose qu'on ne doit pas oublier, si vous abattez un arbre âgé de 20 ans aujourd'hui et vous en plantez des milliers, la compensation de ces services environnementaux qui rendaient cet arbre-là de 20 ans qui est tué aujourd'hui, pour les récupérer, il faut 20 ans de plus. Il faut attendre 20 ans. Ça veut dire, si avant de couper un arbre, il faut réfléchir. Évidemment, le plan proposé par la ministre Eve Bazaïba aujourd'hui, c'est de pouvoir couper plus d'arbres. Et donc, on ne parle pas d'un seul arbre, on parle des milliers d'arbres. Ça veut dire qu'on va attendre autant d'années pour obtenir le service environnemental qui rendrait ou qui rend ces arbres aujourd'hui. Nous devons attendre beaucoup de temps. Et vous avez parlé d'autres minéraux. Il n'y a pas que les ressources forestières que nous disposons dans notre pays. Nous avons eu la chance, nous avons été bénis par la nature qui nous a donné autant de richesses dans notre pays. Et donc, nous ne devons pas être parmi ces populations qui crient la misère et qui pensent qu'en vendant plus de ces forêts, on aura plus d'argent. Loin de là. Donc, il y a une certaine contradiction que nous observons au niveau de ce qui se passe sur le terrain, au niveau de la misère qu'expérimente, qui vive la population congolaise et les plans proposés ou adoptés par nos dirigeants. Et c'est malheureux. Parce que vous avez parlé, monsieur le journaliste, vous avez parlé de ce qui se passe au Gabon. Et madame Sylvie a dit que voilà, nous sommes en train d'emboîter les pas sur les Gabons pour obtenir les mêmes résultats. Mais je pense pas que nous sommes sur la même voie. La RDC est en train d'ouvrir la voie, un grand boulevard vers la déforestation. Alors que le Gabon a pris des voies qui réduisent, si pas éliminer la déforestation. Donc nous sommes dans des voies contradictoires, parallèles.
Et les garde-fous auxquels Mme Zibo a fait allusion ici, notamment la révisitation des contrats, la suspension de l'exploitation des bois d'œuvre, est-ce que cela ne suffirait pas pour rassurer vous, activistes de la protection de l'environnement?
Je respecte l'analyse faite par le ministère de l'Environnement, je respecte son expertise, mais moi je n'appellerai pas ces mesures des garde-fous. Le seul garde-fou que nous avons aujourd'hui pour diminuer la déforestation, c'est de renforcer le moratoire qui existe. En le renforçant, je vais dire, lutter contre les illégalités, lutter contre la violation de ce moratoire, lutter contre l'impunité, la corruption et tous les chaos, mettre fin à ce chaos qui caractérise le secteur forestier. Et si on fait la révisitation des titres forestiers, en quoi cela est un garde-fou? Est-ce que ça fait à ce qu'il n'y ait plus des illégalités sur le terrain? Je ne pense pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que l'instauration de la taxe carbone est un garde-fou à plus de déforestation. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi toutes ces mesures qualifiées par le ministère de garde-fou vont faire à ce qu'il n'y ait plus de débordements dans le sens de volume abattus, dans le sens des espèces qui sont non autorisées mais qui sont abattues. Je ne vois pas en quoi cela constitue les garde-fous.
Merci, merci Madame Sylvie Zibo. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler de Mbandaka.
Maître Edmond Boko, depuis Madame de la province de l'Équateur. La dénonciation de l'ONG Greenpeace face à la levée de ce moratoire est fondée car la forêt constitue pour les communautés locales une richesse et l'épicentre de leur vie. En effet, cette mesure draconienne prise par Madame la ministre de l'Environnement vient favoriser une exploitation illégale des forêts au détriment de la population et pour des besoins égoïstes de certaines personnes en sacrifiant les communautés locales. Par ailleurs, la mesure se justifie car plus de 90% de ceux qui exploitent la forêt forment la classe des politiciens congolais assumant des hautes fonctions étatiques. Au lieu que l'arrivée du gouvernement semble compte puisse remédier à cette situation relative à l'exploitation illégale, il est venu plutôt être un agent causal de cette déforestation. Enfin, pour bien gérer les ressources naturelles, il faut que le nouveau gouvernement puisse renforcer les mesures et faire appliquer les lois et règlements existants au lieu d'être un tremplin pour la spoliation de notre scandale géologique.
Madame Sylvie Zibo.
Oui, bonjour, cher auditeur. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je pense que la levée du moratoire, comme il l'est dit, va s'accompagner des mesures d'encadrement. Aujourd'hui, nous sommes en sous-commission, en préparatif de ces mesures d'encadrement, pour l'exécution de ces mesures d'encadrement, pour arriver à mettre fin, notamment, à l'exploitation illégale au travers de l'arrêt d'exportation de bois d'œuvre, parce que dans l'exportation de ce bois, nous retrouvons toutes sortes de bois, y compris le légal et l'illégal. Il y a un fait que nous combattons aussi, ce sont les antivaleurs, la corruption. Et c'est pour ce fait que nous avons proposé ces différentes décisions. Il faut souligner quelque chose d'important. Dans la révisitation des contrats de concession forestière, nous avons l'ambition de mettre un terme à tous ces contrats qui sont dits litigieux. Nos services juridiques sont déjà à pied d'œuvre pour déjà avoir une liste de toutes ces concessions dites litigieuses. S'il s'avère que ces concessions sont dans ce cadre-là, nous allons mettre fin à ça. Mais il faut commencer quelque part. Et pour mettre fin à cette exploitation illégale, il faut mettre sur pied des mesures coercitives. Nous sommes dans un élan de changement. Nous venons tous de la même société civile, nous venons tous de toutes ces différentes ONG, nous avons tous milité à un moment ou un autre dans le même sens que les autres. Mais si aujourd'hui nous arrivons avec cet élan, si aujourd'hui nous proposons qu'il y ait la levée de ce moratoire, c'est justement pour essayer de voir clair dans la situation. Aujourd'hui, le pays ne tire pas profit de sa forêt. Et pourtant, la RDC est la plus grande forêt au niveau des bassins du Congo. Quand on me dit que nous ne sommes pas sur la même lancée que le Gabon, mais je ne suis pas du tout de même avis que Madame Irène, bien au contraire. Le Gabon, s'il a pu sortir de son marasme au niveau de la politique forestière, c'est parce qu'il a mis sur pied des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de certains exploitants forestiers. Chose que nous sommes en train de mettre sur place.
Merci, madame.
Nous voulons faire le balayage dans le secteur et pouvoir permettre aux locaux de vivre des produits de leur forêt.
Merci.
Nous voulons qu'ils puissent être à même de rester vivre dans leur environnement forestier, mais tout en ayant une plus-value avec un travail rémunéré, mais
merci,
dans des conditions qui permettent que la gestion durable des forêts se fasse de manière pérenne.
Merci madame, on a compris. Alain Parfait Ngoulungou, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Isangi.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Moi je pense qu'avant de faire cette proposition, madame la ministre de l'Environnement avec toute son équipe a essayé d'évaluer les tenants et les aboutissants de cette mesure. Par contre, dire d'emblée que cela représente un danger tant sur le plan climatique que sur la vie environnementale relève d'une lecture désemparante. Je souhaiterais plutôt qu'avant de faire une telle conclusion, que l'ONG Greenpeace Afrique sollicite d'entrer en contact avec ce ministère en vue de contribuer à la réussite de cette proposition avec les idées qui feront en sorte que cela permette à la protection de nos ressources naturelles, notamment la forêt du bassin du Congo, mais aussi et surtout pour que cela soit au profit des Congolais.
Alain Parfait Ngoulungou.
Je crois que, pour répondre à notre compatriote Gaston Bilambo, il faut préciser ce qui suit. Personne n'interdit au gouvernement de léser ce moratoire établi en 2010. C'est donc, je crois que c'est l'avis partagé aussi par d'autres parties prenantes, notamment les ONG environnementales, dont on demande au gouvernement et qu'on le fasse selon les normes, tout en respectant les conditionnalités, les durabilités, mais aussi d'observer justement ou de veiller au respect de certains engagements pris. Vous savez que le gouvernement avait pris l'engagement de pouvoir d'abord commencer, et ça a été annoncé par le chef de l'État avec pompe, de pouvoir procéder à ce qu'ils ont appelé les états généraux du secteur forestier. Rien n'a été fait pour évaluer l'état actuel du secteur forestier. Le gouvernement avait promis, il y a plusieurs années passées, de mettre en place une politique forestière qui est, de manière générale, une vision qui dégagerait justement des actions concrètes à réaliser dans le secteur forestier. Jusque-là, nous n'avons qu'une politique forestière. Et voyez-vous, dans cette imbroglio-là, on va procéder à la levée du moratoire. Une décision qui est tout à fait légitime pour le gouvernement. Mais maintenant, ce que les autres parties sont en train de faire, il me semble, c'est de pouvoir interpeller le gouvernement en tant que garant de la bonne gestion des ressources forestières, de pouvoir, d'abord, avant de procéder à une telle mesure, de pouvoir mettre de l'ordre dans la maison, mais de pouvoir s'assurer que le gouvernement sera en mesure de pouvoir exercer un contrôle, une surveillance de l'exploitation forestière, qu'on est en train de chercher à ouvrir la voie.
Voilà. Alors, Alain Parfait Ngoulungou, et donc vous pensez que en organisant les états généraux dans ce secteur et en élaborant une politique forestière, cela pourrait aider la RDC à pouvoir assurer une gestion durable des ressources naturelles, notamment la forêt?
Ce ne sont que des préconditions qui vont prédisposer la RDC à être en mesure d'avoir le contrôle sur la gestion de ces ressources forestières, que ce soit au niveau national et international. Sans ces préalables, je crois qu'on fait un saut vers les vies et on ne sait pas mesurer les conséquences à la suite de ces boulevards, de cette rue qu'on est en train de vouloir ouvrir en accordant des concessions forestières à qui veut la prendre. Moi, je pense que c'est le conseil que nous donnerions au gouvernement, c'est le pouvoir, parce que le processus, il faut le rappeler, selon le code forestier de 2002, est participatif, et faire participer tout le monde à la réflexion pour voir si il est temps ou le moment est venu réellement pour procéder à cette levée.
Merci.
Mais il nous semble que le moment n'est pas encore propice pour cela, eu égard à toutes les problématiques soulevées, notamment sur les problèmes de l'impunité dans le secteur, sur les problèmes notamment de l'absence de la capacité du gouvernement à pouvoir exercer un contrôle régalien sur l'exploitation des ressources forestières.
Merci, Madame Irène Wabiwa. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons conclure. Qu'est-ce que vous proposez pour que l'on puisse assurer une bonne gestion, une gestion durable des ressources naturelles en RDC, notamment la forêt?
Merci beaucoup. En guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement doit s'asseoir, réfléchir à deux fois avant de procéder avec son plan d'élever le moratoire, parce que comme nous le disons, ce moratoire ne va être seulement une catastrophe de plus pour les droits humains, mais aussi pour les climats. C'est que la levée du moratoire va ouvrir une grande voie vers la déforestation, mais aussi empirer la situation dans laquelle vivent les communautés locales et les peuples autochtones. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures et des décisions qui vont instaurer la bonne gouvernance dans ce secteur. Il ne s'agit pas d'étendre les forêts qui seront entre les mains des exploitants, mais de plutôt bien calculer qu'est-ce qu'il faut faire pour que les forêts qui sont entre les mains des exploitants puissent être bien gérées et contrôlées. Tant que le pays n'est pas encore en mesure de sécuriser et de bien gérer les concessions attribuées actuellement, il est hors de question pour un pays responsable de pouvoir penser à avoir plus des forêts entre les mains des exploitants, sachant que, comme disait M. Alain, le pays n'est pas encore capable d'instaurer ou de mettre en place un contrôle institutionnel.
Vous ne pensez pas qu'il faille envisager de rencontrer les gouvernements pour essayer d'harmoniser vos points de vue?
J'ai dit ça à plusieurs reprises, contacté le ministère de l'Environnement pour avoir une rencontre, mais malheureusement, on n'a pas encore eu de réponse.
Merci.
À plusieurs reprises, moi-même, j'ai contacté le cabinet de la ministre, Eva Daïba, pour avoir une réunion avec la ministre, mais nous n'avons pas encore eu de réponse quelconque. Nous sommes ouverts à toutes sortes de dialogues ou de soutien que nous pouvons apporter en termes de réflexion au ministère.
Merci, Madame Sylvie Dzbeau. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez aussi conclure. En plus de la révisitation des contrats et de la suspension de l'exploitation des bois d'œuvre, quels sont les autres préalables que vous pouvez, n'est-ce pas, proposer pour une gestion durable des ressources naturelles en RDC, notamment la forêt?
Je vais juste rebondir sur ce que M. Alain Parfait a sorti comme réflexion. Je pense qu'il n'a pas suivi le début de mon intervention. Les états généraux et la politique forestière sont déjà à pied d'œuvre. Donc, ce sera une réflexion participative. Et pour ce faire, moi, j'invite personnellement Madame Irène. Je suis extrêmement étonnée du fait qu'elle pense que nous ne soyons pas ouverts à toute discussion, puisque je n'ai jamais reçu le moindre coup de fil ou la moindre demande d'audience ou la moindre invitation de leur part, mais la porte est grande ouverte et le ministère de l'Environnement est ouvert à toutes sortes de suggestions, de participation, et nous sommes partenaires, nous sommes amenés à aller ensemble vers le progrès, vers le développement.
Merci.
Vers la bonne gouvernance.
Merci.
Et pour la fin, je pense qu'il est inopportun de dire que le pays soit incapable de gérer la question forêt. Sur base de quoi peut-on dire que le pays ne soit pas capable de gérer ce genre de questions? Aujourd'hui, nous sommes devenus quelque peu le centre du monde. Et il est impératif, en tant que centre du monde en termes de forêt, centre du monde en termes de poumons, centre du monde en termes d'eau douce, il est important de pouvoir avoir une politique transparente, claire, gagnant-gagnant à tous les niveaux participatifs, local et gouvernement, pour que le respect du pays, les lettres de noblesse de la RDC puissent revenir dans le concert des nations.
Merci, madame.
Donc, c'est juste remercier Radio Okapi de l'opportunité qu'il nous a donnée. Et encore une fois, je réitère mon invitation à toutes les ONG et toute la presse pour quelques questions que ce soit. Sur base de cela, je suis ouverte. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci à vous pareillement, madame. Alain Parfait Ngulungu, votre conclusion?
Oui, merci beaucoup. Ce que je voudrais faire savoir à madame qui venait de me précéder, c'est de dire que les forêts congolaises, certes, séquestrent le carbone et ralentissent le climat mondial dans des proportions vraiment d'envergure très très importantes, mais il faut avoir ce sens-là des responsabilités pour justement commencer à gérer de façon durable les ressources forestières que nous avons, étant donné que, comme elle l'a dit, la RDC se trouve au centre du débat international sur les changements climatiques. Et donc, nous devons être responsables et agir aussi en tant qu'un pays qui exprime cette volonté-là de pouvoir mettre de l'ordre dans le secteur forestier.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Irène Wabiwa et Sylvie Zbo, et ainsi qu'Alain Parfait d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Polydor Basunga qui était à la technique, Kéline Kouté, Dona Madimba qui ont assuré la réalisation de cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.